France Inter.
Oui, bonjour, c'est Jérôme de Lyon. Je réagis à votre émission de ce jour avec votre invité particulièrement nébuleux à qui vous avez eu bien du mal à faire dire des choses un peu concrètes. Mais ce qui m'a particulièrement agacé, c'est le couplet sempiternel sur l'école qui organiserait la compétition. Je suis en couple avec une instit et je peux vous dire que l'école organise beaucoup plus la coopération et le sens du collectif que la compétition. Donc il faut arrêter avec ce cliché, il faut que ce monsieur aille voir un peu comment ça se passe dans les écoles, plutôt que de divulguer des idées reçues. Voilà, bonne journée, à bientôt.
Allô, bonjour, bonjour Mathieu, bonjour à Terre au Carré, c'est Elisa de Montpellier. Alors j'entends votre sociologue là qui parle de l'écologie, des luttes de classe. Bon, moi j'ai lu Fatima Wassak avec l'écologie pirate, je pense que ça serait sympathique de s'intéresser à l'écologie dans les quartiers populaires, parce que si, ça existe, vous pensez. Les gens des quartiers populaires, pour beaucoup, ils viennent de l'autre côté de la Méditerranée, et l'écologie, ils l'ont pratiquée. Ils savaient s'entourer et respecter leur environnement, et ils ont beaucoup à nous apprendre. Allez, au revoir.
Oui, bonjour, ici Yann de Luc-sur-Mer, en Normandie. C'était juste une réflexion concernant les champs de cellules photovoltaïques qu'on voit un peu fleurir partout en France. Je suis retraité et j'ai maintenant le temps de pouvoir voyager. Et j'ai constaté une chose, c'est que quelles que soient les petites villes, moyennes ou grandes villes qu'on peut traverser à la rentrée, on constate toujours un peu la même chose, c'est-à-dire d'immenses zones commerciales et ou industrielles où tous les bâtiments sont en fin de compte des toits plats. Pourquoi n'oblige-t-on pas de monter des cellules photovoltaïques sur ces bâtiments qui sont en général pas très beaux et à ma foi des cellules photovoltaïques, ça serait pas non plus moche que ce qui existe déjà. Merci pour votre émission, bonne journée, au revoir.
Bonjour, Pascal Bronchu, l'association La Nature en Ville, une association départementale en Ille-et-Vilaine, et on rebondit par rapport au message d'hier sur l'open air dans un site refuge LPO, et c'est vrai que ça questionne la place de la nature en ville dans les grandes villes notamment, et en fait, nous on a envie de dire que la place de la nature en ville équivaut en fait à la place de la conscience qu'on met au quotidien dans ces gestes de consommation, de vie simple. Là en ce moment, on est sur des gros dossiers sur le bruit et l'impact sur les milieux et le vivant, donc l'humain et la biodiversité. Le bruit, c'est une cause nationale depuis 2017 et on aurait besoin de soutien. Donc je lance un appel sur cette messagerie, lanatureenville@gmail.com. Merci à vous.
Eh bien voilà, votre appel est lancé, voilà qui introduit l'émission de ce jour. Pour vos messages sur le répondeur qui écoute tous les jours attentivement, notre réalisatrice Valérie Ayestaraï, 01 56 40 45 45. Depuis l'année dernière, les grandes villes de la planète abritent déjà la moitié de l'humanité. Selon l'ONU, 68% de la population mondiale vivra dans des zones urbaines en 2050. Dans un contexte où même les campagnes subissent une artificialisation galopante de leurs terres, quelle place nos villes peuvent-elles accorder à la biodiversité? Cette question est au cœur du nouveau numéro de la revue La Salamandre, consacré aux villes vivantes et à l'accueil du sauvage dans nos cités. C'est le dossier cet après-midi de l'émission et pour en parler, on a le grand plaisir d'accueillir d'abord le parrain de la Terre au Carré, l'anthropologue Philippe Descola. Bonjour à vous, cher parrain.
Bonjour, Mathieu.
Bienvenue. Nous sommes aussi avec la chiroptérologue Lorraine Manceau et Julien Perrault, le fondateur de La Salamandre. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Lorraine Manceau, vous travaillez au Centre de coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris du canton de Genève. On va donc se retrouver dans un instant pour réfléchir à la place du vivant dans nos villes. On va en parler évidemment avec les messages des auditorices. Dites-nous si autour de chez vous, vous cohabitez avec des voisins du monde sauvage. Vous pouvez nous envoyer vos messages sur la page de la Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Passage au vert à 14h30.
Avec l'upwelling, un phénomène de remontée des eaux froides en mer qui peut laisser raz-de-mort, requins, raies et de nombreuses autres espèces de poissons.
On en parle tout à l'heure à 2h30. Voilà pour le sommaire de cette émission qui a été préparée par Chantal Le Montagnier avec Guillaume Roux avec nous à la technique.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Une meute de loups s'est installée dans le parc des Calanques. Des loups à proximité immédiate d'un million d'habitants. Un cas unique en France. Aujourd'hui, 7 loups vivent dans le parc. La famille s'est installée au milieu d'un camp militaire peu fréquenté par l'homme. Elle y trouve la tranquillité et du gibier en abondance.
Il nous manquait un grand prédateur sur ce territoire. La chaîne alimentaire est finalement bouclée, hein, puisqu'on avait du sanglier, on avait du chevreuil, mais pour autant, on n'avait pas de prédateur naturel autre que l'homme.
Voilà, reportage de France 2 en avril 2023 avec la voix de Nicolas Rossignol, garde-moniteur au Parc National des Calanques, le monde sauvage au cœur des cités. Dossier donc de l'émission en partenariat avec la revue La Salamandre et nos invités Philippe Descola, Lorraine Monceau et Julien Perrault. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité inviter Philippe Descola dans ce numéro, Julien Perrault?
Parce que ce... Pardon, je vais y arriver. La ville, par définition, c'est quelque chose d'artificiel. Et en fait, la nature, le sauvage, il résiste à notre volonté humaine et il s'immisce, il se glisse, il va un peu partout. Et en même temps, il est parfois le bienvenu, parfois pas. Mm-hmm. Et cette cohabitation entre les humains et les non-humains, ça nous a fait penser à tout le travail de Philippe Descola. Et on trouvait extrêmement intéressant d'avoir son point de vue d'anthropologue sur ce sujet qui nous concerne très nombreux. Hein. On est de plus en plus nombreux à habiter en ville, vous l'avez dit. Donc finalement, qu'est-ce que ça dit de notre relation au sauvage, au vivant et à la nature?
Avec cet entretien donc de Philippe Descola, à découvrir donc dans ce nouveau numéro de La Salamandre, je le disais dans le sommaire, Philippe Descola, plus de la moitié de l'humanité donc vit aujourd'hui dans des villes, villes qui s'agrandissent, qui s'étalent toujours plus d'ailleurs sur les terres. Est-ce que ça veut dire qu'au fur et à mesure, nous perdons aussi le contact avec le monde sauvage, comment on l'appelle d'ailleurs, avec le vivant, les non-humains, qu'est-ce que vous préférez vous comme terme?
C'est compliqué.
J'ai pas employé le mot nature. Hein.
Oui, je sais. Alors pendant longtemps, effectivement, on en parlait de nature, et puis comme on a fini par se rendre compte que c'était un concept philosophique qui désignait une certaine façon un grand partage entre d'un côté les non-humains et de l'autre les humains, qui a une histoire et qui s'est installée tardivement dans la pensée moderne. Beaucoup de gens ont commencé à employer le terme de vivant. Mmh. Mais cela dit, le vivant, ça n'est qu'une petite partie de ce qui constituait jadis la nature. Il y a des milieux de vie qui sont fondés sur un socle biophysique, sur des rivières, sur des dimensions géologiques aussi, sur des vents dominants, etc., qui rendent possible ou plus difficile certains types de vie, etc. Donc il n'y a pas de terme simple et j'ai bien conscience que...
Ah merci quand même Parce que, surtout quand on vous reçoit, on tourne encore plus autour du pot.
Que la nature n'existe pas, d'avoir embarrassé beaucoup de gens, dont moi-même d'ailleurs.
Ouais. C'est difficile, oui.
Et monde sauvage, ça...
Mais non, parce que c'est pas nécessairement sauvage. Il y a une grande division qui s'est installée avec la colonisation romaine en Europe entre le sauvage et le domestique. La grande forêt arcinienne a commencé à être défrichée. Les Gaulois et les Germains irréductibles ont commencé à être chassés de leurs alliés et de leurs forêts. Et progressivement, s'est mis en place cet équilibre que l'on connaît et que l'on a connu depuis des siècles entre un espace défriché, cultivé et urbain, et puis un espace sauvage.
Oui.
Mais cet espace sauvage, il n'est sauvage que dans ses marges. Enfin, les Romains distinguaient la silva, la forêt, la guerre, le champ et le saltus, qui est la zone de lande intermédiaire où on menait les troupeaux à paître. Et en fait, le monde qui nous environne est composé de micro-écosystèmes de ce type-là, qui sont extrêmement intriqués les uns dans les autres. Et le fait même qu'on ait des renards dans les villes ou que...
Ou des loups, comme on l'entendait, pas loin, aux portes
des grandes villes, montre bien que cette opposition entre des espaces sauvages et des espaces domestiques n'a plus guère de sens.
Bon, alors, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce qu'on a perdu le contact, justement, avec les non-humains? Allez, on va les nommer comme ça.
Ça dépend qui et où.
En ville,
c'est une très grande diversité. Si vous vivez en ville près d'un grand parc, si vous vivez à Paris près du parc Montsouris ou des buts de Chaumont ou du bois de Boulogne, vous avez la possibilité d'entretenir tous les jours des contacts avec en ce moment les grives, les rouges-gorges, etc.
On établit un contact, mais pour autant, est-ce qu'on les voit, est-ce qu'on les entend?
C'est une question d'éducation, des sens, et c'est une question de disposition à s'attacher à autre chose que soi, à autre chose que des humains, qui se développe dans le cadre de la famille lorsque c'est possible et qui devrait aussi être, se développer dans le cadre de l'école par l'apprentissage des leçons de choses et par l'attention en quelque sorte au vivant. Moi, j'ai l'avantage d'être un semi-urbain puisque j'ai une maison dans l'ouest dans la banlieue ouest avec un jardin. Et donc, je sais bien que c'est pas la campagne, je sais pas un monde sauvage, mais je suis environné quotidiennement de non-humains. Je suis très attentif au fait que leur présence indique, par exemple, des perturbations.
Quel est le dernier non-humain que vous avez croisé là ce matin, peut-être avant de venir,
une perruche. Bizarrement,
une perruche, oui. Ah bah oui, voilà.
Qui est assez
très, très espèce locale. Exotique, envahissante en plus.
Espèce très locale de l'ouest parisien.
Une espèce invasive qui est tout à fait une perruche qui était en train de se disputer avec une mouette.
Ah ouais.
C'était assez paradoxal.
Il y avait un combat sous vos yeux. Lorraine Manceau, est-ce que les chauves-souris, c'est votre spécialité, je le disais, sont des animaux qui s'adaptent bien aux villes?
On va dire que oui, pour certaines espèces. Alors après, c'est toujours l'idée que de déconstruire en fait cette image de la chauve-souris. Et en fait, on a beaucoup d'espèces de chauves-souris différentes. Et certaines vivent vraiment très proches de nous. Elles ont trouvé dans nos habitations, elles ont trouvé à notre contact, en fait, au final, des lieux de vie qui les intéressent.
Donc plutôt favorables,
Plutôt favorable. Après, malheureusement, ça reste quand même une minorité d'espèces. Par exemple, pour donner des chiffres, sur les 35 espèces qui vivent en France, on peut considérer qu'on a 6-7 espèces qui vivent proches de l'homme, ou en tout cas qui se sont adaptées à notre ville, telle qu'on l'a construite maintenant. Par contre, au détriment de d'autres espèces qui fuient plutôt les villes.
Ces environnements. Hein.
Qui fuient la ville, qui fuient la proximité de l'homme pour tout un tas de raisons. Pour le bruit, pour, comme j'entendais un des auditeurs dire, pour la lumière, exactement, qui est une de mes grosses thématiques, en fait, les problèmes de lumière. Et qui, en fait, subit un peu des dérangements. Nos animaux domestiques posent énormément de problèmes aussi aux chauves-souris et à la conservation au sens large de toutes ces espèces-là. Donc, du coup, elles s'adaptent difficilement, mais elles arrivent à s'adapter.
On en reparlera tout à l'heure parce que c'est un sujet en soi tout à fait passionnant dans le cadre de ce dossier sur les non-humains donc dans les villes. L'idée pour vous, Julien Perrault, avec la Salamandre, c'était quoi? D'aller voir au cœur des métropoles qui sont nos voisins, justement,
Oui, alors on a fait trois reportages sur trois thèmes différents. Donc on est parti à Genève avec Lorraine et tous ses collègues qui travaillent justement sur les chauves-souris, sur cette thématique de la pollution lumineuse, qui est un enjeu qui est largement sous-estimé. On est allé également à Lyon voir ce qui se passait au bord de la Saône et du Rhône par rapport au castor, qui est un animal qui a un talent extraordinaire parce qu'il peut renaturer à lui tout seul des berges même en pleine ville. Et on est allé également à Bruxelles voir ce qui se passe. Il y a vraiment tout un programme assez ambitieux dans l'agglomération de Bruxelles pour reconnecter tous les milieux naturels.
Avec une forêt alentour
Exactement.
Qui permet d'avoir justement cette initiative. Vous rappelez dans ce numéro que d'ici à 2100, 5% des villes les plus peuplées pourraient avoir des hausses de température de 8 degrés. Donc parler des non-humains, c'est aussi parler du végétal. En l'occurrence, il y a un enjeu aussi.
Alors clairement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a 10 ou 20 ans, quand on parlait de cette thématique, la nature en ville, ça faisait un peu sourire. Ok, on se faisait taxer de bobo écolo. Et en fait, ce qu'une grosse étude vient de montrer à propos de, en prenant l'exemple de Paris, c'est que Paris, dans 10, 15 ou 20 ans, il y aura régulièrement des canicules de 50 degrés, voire plus. La température à Paris, elle monte 6 degrés plus haut, par exemple, que dans le bois de Vincennes.
Qui est à proximité,
vous voyez, c'est vraiment le phénomène îlot de chaleur. Et en fait, Paris va devenir inhabitable si on ne la végétalise pas massivement. Et ça, on doit le faire d'urgence. Et en fait, donc ça veut dire planter les arbres, ça veut dire toutes les toitures, toutes les parois végétalisées. Donc en fait, le vivant devient... De restaurer cette toile du vivant qu'on a tellement malmenée, ça va devenir une question quasiment vitale pour notre société. Et on doit s'y mettre au plus vite.
Philippe Descola, justement, est-ce que nos sociétés urbaines arrivent en ce moment à appréhender les changements en cours avec le nouveau régime climatique qui va littéralement bouleverser les conditions même d'habitabilité en ville, Est-ce qu'on a conscience de ça? Alors même qu'on vit de temps en temps ces pics de chaleur et ces canicules.
On a l'impression que non. Je pense que ça dépend beaucoup des citoyens. En tout cas, les gouvernants et les responsables politiques n'ont pas l'air de mesurer l'ampleur du danger lorsqu'on entendait, par exemple, il y a quelques jours, Patrick Pouyanès devant une commission sénatoriale.
Le patron de Total.
Le patron de Total dire que Total faisait de l'argent avec des énergies fossiles et qu'ils allaient continuer à le faire. Les débats ont été extrêmement feutrés, mais personne n'a dit effectivement qu'est-ce qui va se passer lorsque, à la fin du siècle, il fera 8 degrés supplémentaires à Paris. C'est inimaginable. Nos petits-enfants vont nous maudire. Quand je dis nous, ils vont...
Il n'y a pas qu'à Paris, hein. Ça concerne toutes les villes du territoire. Hein.
Ça concerne toutes les villes du territoire. On sait que l'Europe continentale, les zones tempérées, et notamment la France, vont souffrir beaucoup plus que d'autres régions du monde de l'augmentation des températures. Or, il semble que rien n'est prévu véritablement pour aller à l'encontre de cela. Les choses vont en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lentement.
Allez, on se retrouve dans un instant. C'est ce dossier aujourd'hui de la Terre au carré, nos relations avec les non-humains, ici, chez nous, en ville, en tout cas, pour ceux qui y habitent. One night, all night, c'était Justice sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
À l'Opéra Bastille, 2500 m² de jardin ont trouvé place sur les toits de la plus grande scène d'opéra d'Europe.
Ici, oui, c'est le bâtiment, c'est l'architecture du bâtiment aussi qui nous aide beaucoup. En fait, là, vous pouvez le voir, il y a des murs blancs partout. Ça réfléchit énormément la chaleur. Ça nous aide à faire vraiment des légumes d'été, assez sucrés, ils ont eu assez de soleil.
Le projet a pris racine il y a 4 ans. Mission, faire renaître un écosystème.
S'il n'y avait pas de bâtiment ici, il y aurait une forêt ou une prairie qui pourrait gérer les eaux, rafraîchir quand il fait chaud, etc. Et l'idée, c'était de reproduire ces services. C'était de valoriser le compost qui est produit en ville pour pouvoir cultiver sur place des légumes qui étaient distribués localement en évitant tout le transport.
Les toits de l'Opéra Bastille, ça c'était en 2021 pour évoquer ces villes vivantes. En tout cas, c'est le titre de ce dossier de la Salamandre. On en parle avec Philippe Descola, anthropologue, la biologiste spécialiste des chauves-souris Lorraine Manceau et Julien Perrault de la Salamandre avec votre revue que l'on ne trouve que sur abonnement. Il faut le rappeler à chaque fois.
Oui, revue Salamandre, donc sur notre site salamandre.org. Vous pouvez aussi commander le numéro, évidemment.
Philippe Descola, depuis quand les villes se sont intéressées à l'idée de faire entrer la nature chez elles? Vous en parlez justement dans l'entretien.
Alors, il faut noter que les premières formes de sédentarisation et d'urbanisation précèdent la domestication des plantes et des animaux, au Proche-Orient en particulier. Par conséquent, l'interaction entre ces première forme de concentration urbaine et l'espace environnant était d'une très grande fluidité, parce qu'on pouvait supposer qu'il y avait des animaux, on le sait d'ailleurs, en ville, dans des grosses bourgades en tout cas, et que les gens pouvaient sortir quotidiennement pour aller collecter des plantes et progressivement manipuler les végétaux de telle façon que ça aboutisse à la domestication. Donc c'est un phénomène d'interaction très ancien, mais qui a connu de différentes péripéties. Et le 19e siècle est intéressant parce que c'est là qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et que les urbanistes ont commencé à vouloir mettre des parcs dans les villes. C'est très net en Allemagne, par exemple, ouais. À Berlin ou à Munich, où au cœur même de la ville, on a l'impression d'être en pleine nature. À Berlin, il y a des sangliers dans les parcs. Mm-hmm. Et c'est une volonté, donc, non seulement on dit que c'est lié au romantisme, c'est-à-dire à la réaction vis-à-vis de l'industrialisation, de l'urbanisation, etc. Mais je pense que ça va au-delà aussi. C'est cette idée, cette prise de conscience de ce que la ville en tant que telle ne peut pas être à elle-même sa propre fin. Elle est le cœur de la civilisation, c'est là qu'il y a toutes les aménités, mais en même temps perdre le contact avec la végétation environnante, avec les animaux, etc., est un prix très lourd à payer. Et il faut pouvoir reproduire au fond des imitations de nature.
On rouvre les portes un peu.
On rouvre les portes et on produit des imitations de nature au sein de la ville. Et je pense que c'est ce qu'on a continué à faire, sauf que maintenant c'est à une échelle considérable, enfin qui n'est plus du tout la même que celle qu'on connaissait au 19e siècle.
Vous dites une phrase étonnante, ramener la nature en ville, c'est pétri de bonnes intentions et c'est nécessaire, mais ça n'est pas ça qui va nous sortir du naturalisme.
Non, bien sûr, je pense que c'est à... J'allais dire, c'est un cauter sur une jambe de bois. Je veux dire, tout ce qui permet de conserver ou de ralentir l'érosion de la biodiversité, tout ce qui permet de rendre les villes moins invivables, d'y favoriser le retour à la fois de la végétation, on l'a entendu tout à l'heure avec la végétalisation des bâtiments, etc., est important. Mais au fond, la ville, c'est une sorte de pathologie maintenant.
Tellement
elle est déconnectée de l'espace environnant. L'un de vos auditeurs tout à l'heure évoquait ces ceintures de d'espaces commerciaux, artisanaux, etc., qui entourent les villes et qui, au fond, rendent impossible la fluidité possible avec l'environnement immédiat. La tradition des jardins ouvriers, qui était pendant longtemps la possibilité d'entretenir un rapport direct, d'attachement avec le travail de la terre, la production de légumes et de fleurs, etc., disparaissent les uns après les autres. Donc cette situation de pathologique est d'autant plus perturbante que elle affecte non seulement les pays du Nord global, mais aussi les pays du Sud global. On disait tout à l'heure que plus de la moitié de l'humanité vit dans des villes maintenant, mais c'est aussi le cas pour des populations qui, pendant longtemps, n'ont pas eu l'expérience de la ville. Je pense en particulier aux populations autochtones d'Amérique des basses terres d'Amérique du Sud, en Amazonie, au Brésil, la moitié de la population amérindienne vit maintenant dans des villes. Alors c'est des systèmes de va-et-vient.
Vous dites que c'est des doubles résidences, en fait.
C'est des doubles résidences, mais néanmoins, le fait que les aménités ordinaires qui accompagnent l'extension de la civilisation moderne ne sont pas accessibles localement, que ce soit la santé ou l'éducation, force à ces migrations.
Ouais.
Donc c'est un système général qui on peut essayer de ralentir les difficultés, mais la solution c'est qu'on récupère notre autonomie, en fait, que chacun d'entre nous récupère notre autonomie de vie. Et...
Camille.
Alan nous écrit sur franceinter.fr, est-ce qu'au niveau de la loi, une même espèce est protégée de la même manière en ville ou en milieu rural? Il prend l'exemple des chauves-souris, Lorraine Manceau. Est-ce qu'on est plus permissif en ville pour moins nuire aussi aux humains, dit-il?
Non, pas du tout. En tout cas, à partir du moment où une espèce est protégée, en tout cas, par exemple, pour les chauves-souris, une espèce protégée, son gîte est protégé, et c'est important pour elle. Par contre, que ce soit à la campagne ou en ville, du coup, on a les mêmes obligations légales, en tout cas, de s'assurer que si on fait des travaux sur un bâtiment, je pense par exemple à tout ce qui est rénovation énergétique, qui impacte du coup toutes les chauves-souris qui vivent proches de nous, et ben en fait, c'est les mêmes réglementations, c'est donc vérifier que ces chauves-souris soit ne sont pas là, soit leur proposer. Alors, j'aime pas trop ce terme de compensation, parce que c'est pas du tout c'est l'objectif, en fait, de compenser, mais c'est d'essayer, en tout cas, de pas détruire les espèces en tant que telles, de leur offrir et de continuer à leur offrir le gîte, une fois que les travaux sont réalisés. Il y a toujours ce compromis à faire, malheureusement, entre nos besoins de rénovation et en fait la préservation de ces espèces-là, peu importe que ce soit en ville ou à la campagne.
Justement, sur le bâtiment, Michel nous écrit aussi, il trouve que le bâtiment en fait ne favorise pas forcément la prolifération ou en tout cas même l'habitat des espèces. Il demande s'il ne faudrait pas légiférer pour justement que les aménageurs aient obligation de mettre des abris, etc., quand ils construisent des nouveaux bâtiments.
Votons une loi, pas de problème. Non. Après, c'est
mais on constate, je veux dire, dans les nouvelles constructions. Aux espèces ?
Non, pas du tout. Pas avec toutes ces rénovations énergétiques, par exemple, l'isolation par l'extérieur. En fait, ça condamne énormément de possibilités. Alors, c'est vraiment que quelques espèces. Bien entendu, il reste toutes les autres espèces qui méritent aussi d'être protégées. Mais toutes les espèces qui vivent proches de nous, et notamment chez les chauves-souris, on pense aussi aux martinets, aux hirondelles, toutes ces espèces-là, pas que les chauves-souris. Il n'y a pas encore de loi qui oblige les constructeurs. Par contre, c'est à chaque association d'être présente et d'essayer de militer pour intégrer
ça. Mais il y a des aides quand même, parce que vous citez l'exemple de Lausanne. Julien Perrault dans La Salamandre, où on aide financièrement les propriétaires privés qui végétalisent leurs toits.
Bien
par
sûr,
exemple.
Mais c'est au bon vouloir des collectivités. Donc à Lausanne, ouais. À Lausanne, vous avez une ville qui a une vision par rapport justement.
Oui, mais c'est un exemple intéressant.
Un exemple très très positif. Mais voilà, c'est des exemples isolés. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faudrait agir au niveau national, que ça soit en France ou en Suisse, pour qu'il y ait une loi vraiment qui incite fortement les citoyens et aussi les architectes. À tenir compte de ces éléments-là.
Mais pourquoi, Lorraine Manceau? Parce qu'en fait, les bâtiments sont lisses, il n'y a plus de petites niches.
On enlève toutes les infractuosités en fait, qu'il peut avoir. En fait, un bâtiment qu'on va isoler, on le ferme hermétiquement par l'extérieur, ce qui est, à mon sens, pas forcément non plus très bon pour le bâtiment en lui-même. Mais en fait, on condamne en fait, toutes les possibilités de ces espèces-là qu'elles ont trouvées entre les joints de dilatation, sous les chenaux. Enfin, elles ont tout un tas de micro-gîtes qui peuvent leur être favorables et qu'on condamne complètement en isolant par l'extérieur. Après, c'est la nature en ville, c'est vraiment, donc, comme Julien Perrault le disait, c'est au bon vouloir un petit peu en Suisse en tout cas, c'est à l'échelle cantonale. Sur le canton de Genève, on a quand même la chance d'être très fortement soutenu par les offices cantonales qui du coup, elles, par exemple, promouvoient la nature en ville. Il y a tout un tas de programmes et justement qui essayent de favoriser en fait cette inculcation aux gens en fait d'apprivoiser en fait cette nature en ville, d'y faire attention. Alors il y a tout un tas de la charte des jardins avec tout un tas de possibilités de comment arrive la nature en ville. Pour moi, par contre, faire revenir la nature en ville, ou en tout cas en prendre conscience, c'est plus une raison, plus de la sensibilisation que vraiment un intérêt pour sauver la nature au sens large et la biodiversité au sens large. Par contre, ça permet de toucher un certain nombre de gens et de leur dire, bah, attention, vous pouvez à votre échelle faire attention à ce qui se passe, ne serait-ce que déjà dans votre jardin ou dans votre maison pour tout ce qui est chauve-souris, sous votre toiture, dans vos caissons de store, sous vos volets. Les chauves-souris se mettent partout.
Mais ça, c'est essentiel, hein, parce que c'est vrai qu'il faut le redire, quoi. C'est beau, c'est génial, ça enrichit votre vie. Si vous vivez en ville, ville et que vous avez des martinets qui nichent dans votre maison, ou si sur votre balcon il y a des petits sphinx, des papillons de nuit qui sont comme des colibris qui viennent butiner des fleurs ou des papillons, etc. Vraiment, c'est quelque chose de génial qui enrichit votre vie. Enfin, nous, c'est aussi tout le message de notre travail à la Salamandre avec nos revues, nos livres, par rapport à ce que vous disiez avant, c'est d'essayer de reconnecter justement notre civilisation qui est de plus en plus citadine, de plus en plus collée aux écrans, au monde vivant.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce dossier sur les non-humains en ville avec nos invités.
France Inter, la Terre au carré.
14h33, Camille Cronion passe au vert.
Avec un phénomène qui pourrait vous étonner, en tout cas ça a été le cas pour moi, les poissons peuvent mourir de froid, oui, mourir de froid carrément, comme un choc thermique. Explication avec Laurent Dagorne, directeur de recherche à l'IRD et directeur du laboratoire Marbec, référence pour les travaux sur la biodiversité marine.
Les poissons peuvent avoir l'expérience, on va dire, de variations de température importantes lorsqu'ils plongent en profondeur, par exemple, pour aller se nourrir sur des proies qui sont plus profondes. Mais ils vont pas forcément y rester plus longtemps. Et donc, le problème, c'est que si jamais ils sont exposés longtemps, c'est ce qui peut arriver à un moment donné, donc quand l'ensemble de la colonne d'eau va être très froide, à ce moment-là, ils peuvent se retrouver effectivement en dehors de leur, on va dire, conditions physiologiques optimales. Parce qu'il faut quand même pas oublier que ce sont des animaux qui peuvent pas réguler leur température. Et donc, ils ont tous des préférences.
Et oui, des animaux poikilothermes qui subissent donc totalement les changements de température.
Par exemple, le requin boondog, en gros, sa préférence, ça va être entre 19 et 31 degrés. Donc si jamais il est exposé de manière très courte à des températures en dessous de 19 degrés, il n'y a pas de problème. Si jamais il est exposé longtemps, ils peuvent mourir de froid, oui.
Alors là, vous allez me dire, les requins, les poissons, ils nagent vite et ils nagent beaucoup. Donc bah, ils n'ont qu'à partir des eaux froides pour retrouver la bonne température.
Donc c'est ce qui se passe en général, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont effectivement se déplacer de manière à éviter les eaux trop froides. Là, ce qui peut se passer, c'est lorsqu'ils sont piégés finalement. Ils peuvent se retrouver piégés.
Piégés dans ce qu'on appelle un upwelling, une remontée d'eau froide des profondeurs, parfois sur des centaines de kilomètres, après que le vent en fait ait chassé les eaux de surface vers le large. Ça fait un peu comme une pompe, pouf, qui fait tout remonter. C'est un phénomène qui se produit de la Californie au Pérou, ou le long des côtes d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Sud, où en mars 2021, c'est paru la semaine dernière dans la revue Nature, et Laurent Dagorne a participé à cette étude, en mars 2021 donc, on a retrouvé plus de 260 individus de 81 espèces différentes, et notamment des requins bulldogs, des requins baleines, des raimantas, échoués, morts de froid après un upwelling long et intense dont ils n'ont pas pu s'échapper. En tout cas, le temps de sortir de la zone a été fatal.
On a eu ce qu'on peut appeler une sorte de surprise écologique.
Voilà, des cas ultra surprenants pour les chercheurs qui s'interrogent sur les effets à long terme de ces upwellings, sur la mégafaune donc, mais aussi sur tous les écosystèmes marins, parce que en plus de faire remonter les eaux froides, il y a dedans plein de sels nutritifs qui renouvellent la zone et donc qui boostent, on va dire, l'eau et toute la chaîne trophique. Alors ça, c'est un point positif, mais il peut y avoir aussi des dommages collatéraux. Frédéric Jean est professeur d'écologie marine à l'Université de Brest et à l'Institut universitaire européen de la mer.
C'est des eaux qui sont très pauvres en oxygène, qui sont très froides et qui contiennent des sulfures. Alors on sait bien que les eaux anoxiques sans oxygène, c'est pas très bon pour les organismes qui vivent dans ces baies côtières et en particulier pour les organismes benthiques qui, eux, peuvent pas partir. Ils peuvent pas s'échapper, hein, contrairement aux poissons. Donc ils sont là, hein. Vous pensez à des pétoncles, vous pensez à des mollusques en général. Et donc ils subissent des eaux très pauvres en oxygène. Le pH peut être relativement changeant, en particulier il peut être assez acide. Et ces précipitations de soufre, c'est rarement bon pour les organismes. On a des travaux là en ce moment qui consistent à étudier comment ils encaissent ces chocs thermiques, oxiques et autres, et comment les populations se maintiennent.
Avec aussi des questions sur l'exploitation de ces zones très riches en vie, donc que des pêcheries industrielles s'approprient quasiment, pendant que les petits pêcheurs galèrent, et qu'un upwelling trop brusque peut aussi venir tout déséquilibrer, plus des questions sur l'influence du changement climatique.
Ce qu'on peut dire globalement, c'est que les régimes de vent qui favorisent ces upwellings sont renforcés par les effets du changement climatique à l'œuvre à l'heure actuelle. Et on s'interroge beaucoup dans la communauté à l'heure actuelle justement sur les effets que ça va réellement avoir in fine.
En tout cas, pour la mégafaune venue de zones plutôt tropicales, c'est double peine, explique Laurent Dagorne du Marbec.
Pour certaines de ces espèces comme le requin bulldog, des raimantas, d'autres espèces tropicales qui peuvent descendre, elles vont finalement descendre un peu plus au sud à cause du réchauffement climatique, mais également à cause du réchauffement climatique, vont pouvoir se retrouver finalement plus souvent confrontés à des périodes de froid intense dans ce genre de zone. Donc c'est un peu paradoxal. Mais hélas, ça veut dire que finalement, c'est un double effet du changement climatique.
Alors pour l'instant, le phénomène ne menace pas directement ces populations de poissons parce que leur aire de répartition est heureusement assez étendue. Mais les scientifiques vont être vigilants et observer l'évolution de la situation.
Camille passe au vert à réécouter sur franceinter.fr.
Est-ce que je suis la seule autour de cette table à être étonnée que des poissons puissent mourir de froid, ben, Philippe Descola?
Oui, on avait toujours pensé que les poissons... étant des animaux à sang froid, devaient supporter des variations de température, mais à l'évidence, c'est pas le cas.
Lorraine Monceau,
pas du tout surprise. Non, parce que c'est un phénomène qui est connu, enfin en tout cas que je connaissais, on a déjà parlé en tout cas au cours de mes études, et c'est un phénomène qu'on peut retrouver chez d'autres animaux. En fait, c'est changement de température trop brusque qui est sur des trop longues périodes pose énormément de problèmes, y compris chez les chauves-souris.
Et les canicules par exemple, à l'inverse?
À l'inverse, les canicules peuvent aussi impacter malheureusement autant les animaux que nous au final, on le voit aussi chez nos chauves-souris qui ne sont pas habituées. Tu as de trop fortes températures.
Julien Perrault, le froid chez les poissons.
Oui, bah les upwelling, je connais, c'est un phénomène très important de la circulation océanique et ça amène aussi des eaux le mélange, ce brassage entre les températures et entre les profondeurs, ça amène beaucoup de nutriments et beaucoup de vie. Mais c'est vrai que si le phénomène devient plus violent avec le dérèglement climatique, on voit que ça fait de la casse.
Allez, une chanson pour illustrer notre dossier sur le vivant dans les villes.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, je me débats, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison, et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu, des parkings d'honneur posthumes, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes bras.
Un véritable hymne, Maxime Le Forestier, comme un arbre sur France Inter pour parler des villes vivantes. C'est le titre en tout cas de ce dossier de la revue La Salamandre. On en parle avec Philippe Descola, Lorraine Manceau et Julien Perrault. Et il n'est pas question de renard d'ailleurs tout de suite, si.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier. Sur France Inter.
Gaspard vit dans un petit jardin au fond de cette rue. En s'agrandissant, la ville de Londres s'est petit à petit étendue dans les campagnes et les renards ont dû trouver leur place. Ils sont très attachés à leur territoire. Ils y sont donc restés. Il y a aujourd'hui entre 30 et 35 renards par kilomètre carré. Soit entre 8000 et 10 000 renards urbains à Londres. À travers tout le pays, leur nombre a même été multiplié par 4 ces 20 dernières années. Ils se nourrissent des poubelles laissées sur les trottoirs et se retrouvent parfois perdus dans les bus.
Voilà, France 2 en 2018 autour des renards londoniens, Julien Perrault. Ça, c'est encore un exemple assez marquant, évidemment, pour les urbains. Hein.
Bien sûr, le renard ayant l'avantage en ville qu'il n'est pas chassé, en principe, donc ça, pour lui, c'est bien. Après, il faut aussi souligner le fait qu'il y a peu d'espèces, finalement, comme le renard. Il y a quelques espèces très adaptables, hein, les corvidés, les renards, les pigeons, etc., qui arrivent à se glisser dans nos agglomérations. Mais on voit que même les moineaux, par exemple, en ville à Paris, leur population chute parce que nos villes deviennent quand même trop malsaines. Mmh. Et ce qui est frappant, d'ailleurs, à propos des moineaux, c'est qu'il y a des études qui ont montré que la fécondité des moineaux était en chute libre tellement ils ont de la malbouffe. Et finalement...
Ah oui, ils mangent de la junk food, en fait.
Ils mangent de la junk food, et en fait, ça devrait aussi un petit peu nous faire réfléchir. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, pareil, les pigeons domestiques, hein, qui sont tous à moitié déformés, mal formés, etc. Finalement, on se rend compte que la ville est un environnement toxique, pas très, très sain pour les non-humains, mais il faut aussi qu'on se pose la question pour les humains. C'est aussi, les humains, c'est aussi un enjeu de santé publique de ramener la nature, le vivant en ville, pour qu'elle soit plus agréable et plus saine, nos villes.
Philippe Descola, qu'est-ce que ça dit finalement ces renards, par exemple, en ville? Parce qu'on parle de l'étalement urbain, c'est-à-dire qu'on va aussi empiéter sur des territoires sauvages qui ne sont pas ceux des villes a priori. Il y a plein d'exemples. Hein. Il y a Bombay, par exemple, qui est une ville qui a été construite autour d'une forêt, donc il y a de ces cohabitations entre les léopards aujourd'hui et les humains. Donc, faut pas oublier que nous sommes les envahisseurs quand même dans cette histoire. Hein. Oui, c'est pas les renards qui viennent piétiner sur notre territoire, c'est le contraire.
Tout à fait, et c'est plutôt réconfortant lorsque, par hasard, on a la chance d'apercevoir un renard. Ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises lors du confinement dans la commune de la banlieue ouest où je vis, c'est un sentiment de satisfaction en se disant « Ah, et quand même, on les a pas complètement fichus dehors. Ils sont capables de survivre chez nous. » Et c'est un sentiment de bonheur et de satisfaction de voir qu'on n'a pas réussi à exterminer, au fond, l'ensemble des non-humains de la surface de ces villes. Dans certaines, comme les grandes villes où il y a des réseaux souterrains aussi, ces réseaux souterrains sont parcourus par un très grand nombre d'animaux, commencés évidemment par des rats, par des
souris, renards qu'on croise dans le métro
et
aussi,
par des renards ça aussi, arrive, quelquefois des blaireaux.
Beaucoup de questions sur les chauves-souris, Lorraine Manceau, ça va vous faire plaisir. Alain voudrait savoir, il est à l'île d'Oléron, il dit il y a plein de moustiques, comment je peux faire venir les chauves-souris chez moi?
On éteint la lumière de son jardin et on leur propose des gîtes favorables.
C'est-à-dire?
C'est la meilleure technique.
Gîtes favorables, alors par exemple, Ilan nous dit des petits abris en bois format boîte aux lettres, est-ce que c'est
exactement
efficace?
Exactement, oui, ça peut fonctionner. Après, elles sont pas trop difficiles en termes de gîtes, en tout cas les espèces qui vont habiter proche de chez nous. Hein. Je parle pas de toutes les espèces.
Il faut les mettre à quelle hauteur, là, soyons concrets?
Alors, à quelle hauteur?
4-5
mètres à peu près de hauteur, sous les avant-toits, hors de portée en fait des prédateurs et de chats si on en a. Et l'idée c'est de les exposer, alors plus vous êtes sur une zone un peu chaude, de les exposer normalement proche du... les faces exposées au soleil. Donc généralement on dit sud-sud-est, puis avec le réchauffement climatique on commence un peu à changer de façade pour essayer d'avoir pas de trop forte température. Mais donc elles apprécient un peu toutes les façades de nos maisons. Avoir un jardin, c'est plutôt bien quand même. Pour avoir de la nourriture, des moustiques, donc c'est pas mal. Elles mangent quasiment l'équivalent de 3000 moustiques en une nuit.
Ah ouais. Ah,
donc c'est des très bons alliés pour la démoustication.
Et dans la chambre, non, c'est pas valable. On peut pas
dans la chambre,
dans la chambre les soirs d'été.
Dans la chambre, non, vous en avez forcément qui sont rentrées une fois chez vous, mais généralement, elles apprécient pas trop, puisque du coup, elles se déplacent grâce à leur écolocation, ce système de sonar, et en fait, les murs de votre chambre, c'est des obstacles qu'elles ne connaissent pas, donc elles sont un peu perturbées. Il suffit d'éteindre la lumière, d'ouvrir grand la fenêtre, et elles vont partir.
En tout cas, l'enjeu, c'est la pollution lumineuse, hein, c'est ce que vous disiez, pour répondre. Donc, c'est là-dessus que vous travaillez, précisément.
Alors, voilà, je travaille sur la pollution lumineuse depuis 2019, sur le canton de Genève, principalement, où en fait, justement, cet impact sous-estimé de la lumière modifie complètement en fait ce fonctionnement de ces écosystèmes en perturbant la répartition des proies, des chauves-souris par exemple, puisque du coup, un lampadaire, c'est un impact pour les insectes de l'ordre de 400 à 700 mètres, ce qui fait que ça les attire. Alors voilà, il y a plusieurs types d'impact sur nos espèces, sur les insectes, ça les attire, ça les fait mourir du coup, puisqu'ils vont mourir d'épuisement, ils sont complètement piégés par nos lumières, ou alors ils vont mourir prédatés par des araignées par exemple, qui se sont spécialisées au niveau des lampadaires, et puis des chauves-souris, les quelques rares chauves-souris qui se sont habituées à nos lumières et qui se sont dit, tiens, un lampadaire, c'est un garde-manger, c'est plutôt pratique. Par contre, au détriment de toutes les espèces nocturnes qui fuient la lumière et qui, du coup, se retrouvent dans des habitats, forêts, champs et autres, sans insectes, sans proies à manger et qui, du coup, doivent faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres pour essayer de trouver de quoi se nourrir.
Vous citez un exemple, on a justement posé des caches sur les lampadaires.
Oui, tout
à fait. Et alors, ça fonctionne très, très bien pour protéger les chauves-souris, justement ?
Ça fonctionne très, très bien pour limiter notre impact sur le ciel, sur la migration, ça ne fonctionne pas pour protéger les chauves-souris. Il faut vraiment se rendre compte qu'une lumière, c'est un impact sur toutes les espèces et pas que les chauves-souris. Peu importe nos longueurs d'onde, on essaye maintenant de parler de température un peu blanc-froid, blanc-chaud, etc. De termes d'intensité, la lumière, ça reste un impact. Après, maintenant, ce qu'il faut réfléchir, c'est vraiment de savoir quand est-ce qu'on a besoin de la lumière, nous, humains, qui sommes des espèces diurnes. Et bien, peut-être qu'on n'en a pas besoin à 3 heures du matin. Alors, il serait peut-être de bon ton d'éteindre nos lumières dans les jardins à 3 heures du matin. Voilà.
Joël, je vous relaye une autre question. Joël voudrait savoir que faire si on a des chauves-souris dans les combles et qu'on veut isoler le grenier.
Problématique, du coup. Effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles, des fois, on intervient chez les gens, puisque c'est ce problème de cohabitation et de personnes qui ont envie d'utiliser la totalité de leur maison. Malheureusement, les combles et les chauves-souris qui vivent dans les combles sont des chauves-souris qui ont besoin de gros volumes, avec des conditions microclimatiques qui sont assez spécifiques. Et avec toutes ces isolations de combles, elles perdent des habitats et c'est des espèces qui sont en très fort déclin en France et un peu partout en Europe.
On n'isole pas ces combles ?
Alors, malheureusement, on peut... Je ne veux pas dire qu'on doit interdire. Le mieux, si c'est possible, si qu'on a des combles hauteur suffisante, c'est de leur partager l'espace dans la mesure du possible. C'est de leur laisser un endroit quand même qui leur est favorable. Si vraiment c'est pas possible et que c'est l'entièreté des combles, il faut surtout par contre intervenir aux bonnes périodes. C'est-à-dire qu'en été, c'est la saison de reproduction pour les chauves-souris. C'est-à-dire qu'en fait, les chauves-souris que vous avez dans vos maisons, c'est des colonies de reproduction. De parturition, exactement, dans le jargon. C'est-à-dire que c'est les femelles qui se regroupent pour mettre au monde leurs jeunes. C'est une période qui est très, très sensible. Les chauves-souris, c'est pas des espèces qui, contrairement à les souris avec lesquelles on les confond souvent à part qu'elles volent, qui mettent au monde seulement un seul petit par année, voire un tous les deux ans. Donc, elles sont très, très sensibles à tout le dérangement. Donc, il y a cette période de reproduction à peu près entre mai et août qu'il faut vraiment éviter, attendre que la colonie puisse partir et essayer de contacter au mieux les associations naturalistes pour essayer d'aider dans les travaux. Elles sont là pour ça, ces associations naturalistes, et elles aident en général très volontiers. Elles se déplacent chez les gens. Elles sont là pour dire, voilà, comment on peut faire, comment on peut vous accompagner pour essayer de faire vos travaux, si vous avez besoin de faire vos travaux, tout en respectant la colonie, et si possible, continuer à leur garder un environnement un peu pour elles.
Il faudra qu'on fasse une spéciale chauve-souris avec vous, Lorraine Manceau. Le jour où on sera fatigué, on vous invitera comme ça, vous prendrez le micro, vous répondrez à toutes les questions pendant...
Mais nous, on vous écoute, on vous laisse faire.
Pendant une heure.
Sans problème.
Philippe Descola, vous racontez dans La Salamandre, être allé avec des Indiens Achuar à Quito, la capitale de l'Équateur, et visiter le jardin zoologique de la ville. Qu'est-ce que ça a provoqué, en fait, comme effet sur ces Indiens Achuar ?
Une très grande curiosité, parce que... d'abord, il y avait des animaux qu'ils ne connaissaient pas, en particulier un tigre. Le plus gros félin prédateur qui joue un rôle très très important à la fois dans la chaîne trophique et symboliquement en Amazonie, c'est le jaguar. Ouais. Et là, c'était un jaguar multiplié par deux ou trois. Et donc, ils sont restés absolument fascinés par cet animal. Et en même temps, la possibilité d'être tout proche... Alors qu'en forêt, en général, lorsque l'on chasse, on est, on voit les animaux de loin. Et cela dit, les Amérindiens apprivoisent énormément. Et donc, dans toutes les maisons, il y a des animaux sauvages, qui sont des animaux
apprivoisés.
apprivoisés, pas domestiqués. Ouais. C'est-à-dire la différence, c'est simplement qu'on s'efforce qu'ils ne se reproduisent pas en captivité. Autrement dit, ils ont le même statut que nos chiens, nos chats.
Lesquels, par exemple? Quels animaux?
À peu près tout.
Ah bon?
Oui, à peu près tout.
Des jaguars, par exemple?
Pas des jaguars, mais j'ai vu des oslos, par exemple.
C'est quoi?
Un oslo, ben, c'est un petit félin, c'est un petit jaguar, disons. Ce sont les petits des animaux qui sont tués à la chasse, que les hommes ramènent et qu'ils confient à leurs épouses, qu'ils les nourrissent au sein lorsque ce sont des petits mammifères,
ah bon,
ou à la béquée lorsque ce sont des oiseaux qui ont été dénichés. Et qui, de ce fait, développe une empreinte avec la maîtresse de maison, ou avec le maître de maison, dans certains cas, qui développe un attachement de ce fait.
Mais ça gêne pas ensuite la reproduction, justement, sauvage dont vous parlez, parce que s'il y a l'odeur humaine, etc.
Ils sont conservés dans la maison, et puis ils meurent de leur belle mort, ils ne sont jamais consommés, ils ne sont pas maltraités. Et ça n'est qu'une infime proportion de la faune qui est ainsi prélevée. Et donc c'est assez curieux parce qu'à l'intérieur de la maison se crée une sociabilité interespèce qui n'existe pas dans la forêt.
Et donc vous alliez dire dans la nature. Je vous ai vu.
Et donc on peut voir un quincajou jouer à cache-cache avec un ouistiti, ce qui ne se passerait jamais dans la nature, justement.
Ouais.
C'est un attachement très profond vis-à-vis. On voit souvent des photos avec des enfants en particulier avec des ouistiti dans les cheveux ou dans des choses comme ça. Et ça peut être le cas pour des grands animaux. Je me rappelle d'un homme qui avait un tapir apprivoisé comme ça. Un tapir, c'est quand même un petit veau sur court sur pattes, qui le suivait quand il partait en pirogue. Il nage très bien, les tapirs, et qui nageait derrière sa pirogue comme ça. Il le suivait absolument partout.
Message de Nicolas. Nous avons la chance d'habiter un petit coin de nature en pleine ville. Il nous dit pas où. On fait tout pour favoriser la biodiversité, des nichoirs, des plantations de plantes mellifères, pas de traitement, etc. Mais on est désarmé par la prolifération de ragondins dans la rivière qui jouxte notre jardin. Toute tentative de piégeage est un échec parce que les défenseurs de la nature sabotent les pièges. Que faire, Julien Perrault? Il y a des petits conflits comme ça, là.
Ben c'est un grand sujet. Alors c'est un autre sujet. Ce matin à Paris, dans le bois de Vincennes, j'ai tourné une vidéo justement sur ce thème des espèces envahissantes pour ma chaîne YouTube, La Minute Nature. C'est vrai qu'il y a vraiment polémique. Il y a ceux qui disent qu'il faut absolument éradiquer les espèces envahissantes parce qu'elles ont un impact énorme sur les écosystèmes. C'est le cas du ragondin qui provoque un certain nombre de problèmes. Et puis, il y a les gens qui disent, du moment qu'ils sont là, on les laisse tranquilles et finalement, la nature retrouvera bien son équilibre.
Va se rééquilibrer.
Donc, il y a vraiment les deux aspects. Ça fait polémique. Mais ce qui est sûr, c'est que notre société globalisée, alors d'une part, elle bousille le climat, les conditions climatiques qui font qu'on est bien sur Terre, mais ça a aussi cette conséquence qu'on brasse et qu'on introduit des myriades de plantes et d'animaux et de virus et de bactéries et tout ce que vous voulez aux quatre coins de la planète. Et ça, c'est une des cinq grandes causes de déclin de la biodiversité sur Terre, c'est toutes ces espèces invasives. Donc,
quelle est votre position là-dessus, Philippe Descola, sur les espèces invasives? Comment on fait avec cette présence du vivant, quand même?
Je pense qu'il faut s'efforcer dans le cas, par exemple. Moi, j'étais très surpris, c'est une anecdote personnelle. J'ai une maison dans le Quercy, très loin d'un cours d'eau. Et j'ai vu un jour, je travaillais de la fenêtre de mon bureau, j'ai vu un ragondin passer. Et ça, je me dis que c'est pas possible qu'un ragondin arrive à survivre si loin d'un cours d'eau et cherche un endroit où nicher, ou en tout cas se procurer de la nourriture. Et donc je pense que effectivement ça pose des problèmes. C'est une question d'échelle. Hein. Vous évoquiez tout à l'heure le cas du castor. Dans certains endroits, le castor pose un problème aussi. Je pense en particulier à la Patagonie.
Oui, parce que c'est une espèce invasive en Amérique du Sud, le castor.
Oui. Alors que le ragonda est une espèce native en Amérique du Sud. Donc, il n'y a pas de solution simple. Ça dépend complètement des milieux, des usages aussi, des milieux et du degré de j'allais dire d'infestation, en tout cas de développement, de prolifération de ces espèces.
Lorraine Manceau, peut-être une question pour vous.
Oui, il y a Marie qui nous écrit qu'elle est en train de faire des installations chez elle, notamment d'isolation thermique extérieure, et que les architectes disent qu'il y a des problèmes techniques parce qu'elle voudrait des endroits notamment pour les chauves-souris et les oiseaux. Elle demande des arguments à opposer aux architectes. Qu'est-ce qu'on dit?
Il y a plein de gîtes maintenant qui peuvent être directement intégrés dans les isolations par l'extérieur, en fait, et on s'est rendu compte, parce qu'il y a des études qui ont été faites, heureusement, qu'en fait, il n'y a pas de pont thermique, le perte, en fait, en efficacité est vraiment minime par rapport, en tout cas, à l'intérêt que ça peut avoir pour les chauves-souris. Il suffit de contacter, par exemple, je peux même pas donner mon adresse, mais en tout cas, si vous avez la possibilité de me contacter, j'ai plein de documentation.
On ne peut pas imposer à son architecte
De toute façon, c'est le maître d'ouvrage qui décide. Donc, c'est possible d'imposer ça. Et il y a vraiment des solutions qui existent. Il y a pas mal de bureaux d'études qui construisent ce type de nichoirs qui peuvent être soit intégrés directement à l'isolation, soit mis en
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Ville Vivante, lasalamandre.org pour ceux qui souhaitent se procurer votre revue, Julien Perrault, donc pour évoquer le sauvage qui tente de se faire une place dans nos cités, offrons-lui encore plus d'espace. Il y a plein d'idées, évidemment, très concrètes aussi, avec l'entretien avec Philippe Descola, qui nous a fait l'amitié de venir aujourd'hui dans la Terre au Carré. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Et à demain.
À demain. Bon après-midi.